Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. D'abord les titres de ce journal. Lomé évalue la paix dans les Grands Lacs sous la présidence de Faure Gnassingbé. L'Union africaine et ses partenaires mesurent les avancées, identifient les défis et renforcent la coordination des efforts en RDC et dans la région. Olomami, plénière sous tension, balle réelle, blessé et arrestation au siège de l'Assemblée provinciale, la séance pour l'installation du bureau d'âge délocalisé. Béni, la jeunesse en première ligne contre Ebola. Le Parlement des jeunes intensifie sa campagne de sensibilisation pour inciter la population à respecter les mesures barrières. Nous en parlons dans ce journal avec pour invité Samuel Don Sekanabo, président du Parlement des jeunes de Béni. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. À Lomé, l'Union africaine a réuni le 7 et le 8 juin ses partenaires régionaux et internationaux pour une évaluation semestrielle consacrée à la situation dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. La rencontre est présidée par Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo et médiateur désigné par l'Union africaine, a permis de mesurer les avancées, de cerner les défis persistants et de renforcer la coordination des efforts de paix. La MONUSCO et le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs y ont activement participé. Plus de précisions avec Alain Irung.
À Lomé, la réunion semestrielle de l'Union africaine sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs a mis l'accent sur la cohérence des initiatives régionales et internationales, ainsi que sur la prise en compte des réalités du terrain. Les défis sécuritaires et humanitaires qui continuent d'affecter les communautés locales ont été au cœur des échanges. Autour de la table figuraient des acteurs majeurs, l'Union africaine, la CIRGL, la CAE, la CEEAC, la SADC, la MONUSCO, le Bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, le HCR et le CICR. Le groupe de facilitateurs de l'Union africaine, composé d'anciens chefs d'État africains, a également apporté son soutien aux discussions. La MONUSCO a pour sa part réaffirmé son engagement à accompagner la désescalade, à protéger les civils et à appuyer une solution politique durable en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux.
Ici au pays au Nord Kivu, au moins 122 enfants, dont 36 filles, ont été retirés des groupes armés actifs dans les territoires de Walikale au cours des deux dernières semaines. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une action conjointe menée par la section de protection de l'enfant de la MONUSCO, le programme PDDSSC et le Bureau pour le volontariat au service de l'enfance et de la santé. La mission fait suite aux recommandations issues de l'atelier de coordination sur la dissociation des enfants organisé le 12 mai 2026 à Béni. Bernadette Nyangui.
La plupart de ces enfants ont été séparés des groupes armés Uhuru, Raia Mutomboki et Raia Kujikomboa, opérant dans le groupement de Walo Luanda, Walo Yungwe, Walo Uroba, au sud-est du secteur de Wanyanga. Selon un rapport de la section protection de l'enfant de la MONUSCO, les chefs de ces groupes avaient récemment signé des actes d'engagement ainsi que des feuilles de route visant à mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants. Pour le PDDRCS, la sortie de ces enfants constitue une avancée importante dans la lutte contre les violations graves des droits de l'enfant. À la fin de la semaine dernière, 110 des 122 enfants avaient déjà été réunifiés avec leurs familles. Les démarches se poursuivent pour permettre la réunification d'une dizaine d'autres avec l'appui des partenaires de l'UNICEF impliqués dans cette opération. Rappelons qu'avant cette mission, un atelier de plaidoyer s'était tenu le 12 mai à Béni, réunissant les autorités territoriales de Béni, Lubero et Walikale autour du groupe technique et thématique conjoint du gouvernement congolais et des Nations Unies. Lors de ces échanges, la présence d'au moins 300 enfants au sein des groupes armés dans le territoire de Walikale avait été dénoncée.
Après l'incursion samedi dernier d'éléments armés présentés comme appartenant à des groupes d'autodéfense dans la cité de Lubuto Maniema, la députée nationale Yvonne Musongela appelle à faire toute la lumière sur ces violences qui ont fait des morts, des blessés, d'importants dégâts matériels et provoqué les déplacements de plusieurs habitants. Dans une motion d'information présentée ce lundi à l'Assemblée nationale, l'élu de Lubutu rappelle que les structures d'autodéfense encadrées dans le cadre de la défense de la patrie aux côtés des FARDC ne devraient en aucun cas se retourner contre les forces loyalistes ni contre les populations civiles qu'elles sont censées protégée. Elle recommande l'envoi urgent d'une mission d'enquête parlementaire mixte associant le gouvernement, les FARDC et la police nationale congolaise afin d'établir les responsabilités, d'évaluer la situation sécuritaire et de garantir justice aux victimes. On écoute Yvonne Moussongela dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Des tirs ont été dirigés contre des paisibles citoyens. Plusieurs maisons ont été incendiées, notamment ma résidence familiale et mes collaborateurs directs. On compte des pertes en vies humaines ainsi que des blessés graves. Les victimes blessées sont actuellement prises en charge dans des structures hospitalières dont les capacités demeurent insuffisantes au regard de la gravité des blessés. Face à ces faits extrêmement graves, l'État congolais a le droit de garantir la sécurité des populations civiles et de restaurer l'autorité de l'État et de lutter contre toute forme d'impunité. Au regard de ce qui précède, je suggère une enquête parlementaire mixte et urgente. Un fonds de prise en charge sociale, une prise en charge urgente de blessés et de déplacés est le plus qu'entendu.
À Mbujimayi au Kasaï oriental, les motocyclistes sont de plus en plus la cible de vols à main armée. En moins d'une semaine, deux conducteurs ont été atteints par balle avant que leur moto ne soit emportée par des assaillants. Face à cette recrudescence d'actes criminels, le gouverneur des provinces a exprimé sa vive inquiétude ce lundi lors de la cérémonie des saluts au drapeau. Il a appelé à un renforcement immédiat des dispositifs sécuritaires pour protéger les habitants et leurs biens. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
Le dernier incident en date s'est produit ce lundi à proximité de la localité de Lac Lomba sur la nationale numéro 1 axe Lukalaba Mbujimayi. Selon plusieurs sources locales, un motocycliste en provenance de Lukalaba situé à près de 50 km transportait deux clients armés qui se sont finalement révélés être des assaillants à l'entrée du Lac Lomba. Les deux hommes ont ouvert le feu sur le conducteur l'atteignant au bras avant de s'enfuir avec sa motocyclette. L'infortuné a été rapidement acheminé vers un centre hospitalier de Lukalaba pour des soins d'urgence. Cet acte survient quelques jours seulement après un autre meurtre similaire. Jeudi dernier, vers 5h du matin, un motocycliste a été abattu au lieu dit mobile en pleine ville de Mbujimayi par deux individus non identifiés qui ont également emporté son engin. Ces attaques répétées ont provoqué une vive agitation parmi les conducteurs des motos. En colère, certains ont détruit les planches servant de barrières de contrôle pour le paiement des jetons journaliers dénonçant l'insécurité persistante et l'absence de protection. La semaine dernière, un agent de police a été présenté à l'autorité provinciale pour avoir extorqué deux motocyclettes et plusieurs autres biens de la population dans le territoire de Katanda. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Quittons la ville de Mbujimayi pour se rendre à Kananga où la Société congolaise pour l'état de droit, CED, exprime ses réserves après le verdict de la haute cour militaire dans l'affaire du meurtre de deux experts de l'ONU au Kasaï en 2017. Vendredi dernier, plusieurs condamnations à mort ont été prononcées contre les accusés. Mais pour les CED, la justice n'a pas identifié les véritables commanditaires. Seuls des exécutants auraient été jugés. L'organisation plaide pour que les responsables de haut niveau soient poursuivis et répondent de leurs actes devant les tribunaux. Plus de détails avec André Katendengala Mouloumé.
La Société congolaise pour l'état de droit CED réagit au verdict de la haute cour militaire dans l'affaire du meurtre des deux experts de l'ONU au Kasaï. Dans une déclaration de ce mardi, l'organisation estime que les condamnés ne sont pas les véritables responsables de l'assassinat des Aïda Catalan et Michael Sharp, tués en mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur les violences du conflit Kamuina-Nsapu. Selon son directeur, Maître Dominique Kambala, certaines autorités de l'époque, soupçonnées d'avoir commandité ces doubles meurtres, n'ont jamais été inquiétées. Ils plaident pour que ces présumés commanditaires soient traduits en justice.
Ceux qui viennent d'être condamnés, pour nous, nous estimons que ce sont des menus fretins et que les grosses personnalités impliquées dans cette affaire devraient absolument répondre de leurs responsabilités.
La Société congolaise pour l'état de droit critique les recours à la peine capitale dans le verdict de la haute cour militaire. Dominique Kambala souligne que plusieurs dossiers liés aux crimes commis contre des Congolais lors de ces conflits n'ont jamais été instruits. La CED appelle la justice à réouvrir ces dossiers afin que le millier de victimes obtiennent réparation et que les responsables soient sanctionnés. Kanana, André Katindengala Mulume, Radio Okapi.
Je le disais en titre, à Kamina, la tension est montée ce lundi au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Les services de sécurité ont empêché la tenue de la plénière prévue pour l'installation du bureau d'âge sur instruction de certaines autorités locales. La police a fait usage des balles réelles. Plusieurs blessés sont signalés, dont une députée, ainsi que des arrestations. Conséquence, la plénière a été délocalisée. Selon les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, le bureau d'âge devra se pencher sur la motion de censure déposée en mai contre les 5 membres du bureau actuel. Plus de précisions avec Paulin Munanga.
Des éléments de la police tirent des balles devant les sièges de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami pour disperser les députés qui devraient organiser une plénière afin d'installer les bureaux d'âge, indiquent des sources locales. Face à cette situation, la plénière a été délocalisée. Selon les rapporteurs de cette institution, l'article 8, alinéa 4 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami autorise la délocalisation de l'Assemblée plénière en cas de circonstances exceptionnelles. C'est en vertu de la disposition que la plénière a été délocalisée vers les bureaux administratifs de l'Assemblée provinciale. Le rapporteur de cette institution revient sur les missions consacrées au bureau d'âge. Senghor Kabondo Senghwa.
D'abord, de traiter sur la motion de censure portée contre le bureau, voir s'il y a recevabilité ou non. Après cette étape, le bureau va devoir convoquer une plénière au cours de laquelle les 5 membres du bureau reprochés par les motionnaires vont devoir s'expliquer devant la plénière.
Nous n'avons pas pu obtenir la réaction de l'autre camp des députés qui s'oppose à l'organisation de la plénière. Contacté par Radio Okapi, le commissaire provincial de la police du Haut-Lomami n'a pas voulu s'exprimer au sujet de ces incidents. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, les mesures de prévention contre Ebola restent insuffisantes dans la plupart des sites des personnes déplacées, aussi bien à Bunia qu'à l'intérieur de la province. Des sources médicales signalent également l'arrivée des populations en provenance des zones touchées par l'épidémie, notamment Mongwalu, l'un des principaux foyers de la maladie. Une situation qui expose davantage des milliers de déplacés au risque de contamination. Les responsables des sites et les acteurs de santé tirent la sonnette d'alarme. Isaac Remoyope, reportage.
À Bunia, les sites des déplacés de Kigonz et de l'ISP accueillent à Essel près de 30 000 personnes. Pourtant, les mesures de prévention contre Ebola y sont quasiment absentes. Les dispositifs de lavage des mains sont rares, voire inexistants. L'accès à l'eau potable demeure également un défi pour de nombreuses familles déplacées. Le même constat est fait dans plusieurs autres sites situés à la périphérie de Bunia, notamment à Mbala, Tseré et dans de nombreuses cités du territoire de Djougou. Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les autorités sanitaires et leurs partenaires, les gestes de prévention sont peu observés. La distanciation physique est difficile à respecter dans ces espaces, souvent surpeuplés. Les dispositifs de contrôle des températures font également défaut. Autre préoccupation, les mouvements des populations en provenance des zones affectées par l'épidémie. Selon des sources médicales, de nouveaux arrivants continuent de rejoindre certains sites des déplacés, notamment celui de Djaïba à Fataki, en provenance des zones de santé touchées par Ebola dans Mongwalu. Face à cette situation, les comités des déplacés appellent le gouvernement et ses partenaires à renforcer les mesures de prévention dans les sites afin de protéger près d'un million de personnes déplacées vivant actuellement dans la province. Contactées, les autorités provinciales n'ont pas encore réagi. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Lutte contre la maladie à virus Ebola toujours. Dans la cité frontalière de Kassindi au Nord Kivu, les notables s'engagent aux côtés des professionnels de santé pour sensibiliser la population à la prévention contre cette épidémie. Point stratégique et porte d'entrée et de sortie vers la partie est de la province du Nord Kivu, Kassindi représente une zone à haut risque, d'où l'appel des leaders communautaires à une prise de conscience collective et au respect strict des mesures préventives. Les détails avec Marc Marofimbo.
Le quartier populaire de Kongo-Yassika, dans la cité frontalière de Kassindi, a été choisi pour lancer cette campagne de sensibilisation entamée lundi matin. Notables et professionnels de santé, issus de différentes structures sanitaires locales, parcourent les quartiers pour informer la population sur les mesures de prévention contre Ebola. Un message clair est martelé, Ebola existe, Ebola tue et chacun doit se protéger. Imani Mambura Kasereka, l'un des notables impliqués, explique la motivation de cette initiative.
Ebola existe, Ebola tue. Et le plus grand médicament de cette maladie, c'est d'abord la reconnaissance de son existence. Voilà pourquoi j'appelle toute la communauté de Kassindi au respect de mesures prises par le gouvernement congolais. Lavons les mains, évitons les contacts corporels. Kassindi, c'est une commune qui accueille tout le monde, les gens qui viennent de l'extérieur du pays, les gens qui viennent de l'intérieur du pays. Nous devons lutter contre cette maladie en respectant les règles hygiéniques.
Ces leaders communautaires appellent également le gouvernement à renforcer les dispositifs de prévention dans cette cité frontalière. Pour rappel, la semaine dernière, l'Ouganda avait fermé la frontière d'Mpondwe après l'enregistrement d'une dizaine de cas confirmés d'Ebola, dont la majorité provenait de la République démocratique du Congo. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi a réuni ce lundi 8 juin 2026 à la cité de l'Union africaine la task force chargée de relever les défis d'assainissement et de salubrité dans la capitale. Le chef de l'État a fixé des orientations claires, restaurer la fluidité, renforcer la sécurité et redonner dignité à la vie urbaine. Il a réaffirmé sa volonté de bâtir des villes mieux planifiées, plus propres et plus humaines. Cette nouvelle task force, placée sous son autorité directe, est coordonnée par le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, commandant du service national.
Actualité internationale.
Au Gabon, pose de la première pierre d'un port minéralier à Kobe-Kobe, dans le sud de Libreville, qui devra permettre d'évacuer les fers de Belinga vers les marchés internationaux. En effet, cette mine, dont les réserves sont estimées à plus d'un milliard de tonnes, n'a jamais été exploitée à cause de son enclavement, car situé à plus de 500 km de la capitale. Une société australienne est sur le point de lancer l'exploitation, d'où la nécessité d'un débouché maritime, mais aussi d'un chemin de fer et d'une centrale électrique.
L'invité.
À Beni, le Parlement des jeunes intensifie sa campagne de sensibilisation pour inciter la population à respecter les mesures barrières face à l'épidémie d'Ebola. Quelles stratégies sont déployées pour garantir l'efficacité de cette mobilisation et comment se traduit-elle concrètement sur le terrain? Élément de réponse avec Samuel Don Sekanabo, président du Parlement des jeunes de Beni, dans un entretien mené par Marc Marofimbo.
Samuel Don Sekanabo, bonjour.
Bonjour, merci.
Depuis la semaine dernière, le Parlement des jeunes mène une campagne de sensibilisation de la communauté au respect des mesures barrières contre la maladie virus Ebola sur le terrain. Comment ça se passe et est-ce que les jeunes sont-ils vraiment conscients du danger que présente cette maladie?
Oui, nous menons la campagne. Les jeunes sont vraiment conscients du danger et s'ils se sont appropriés la campagne, c'est parce qu'ils ont compris que sans la jeunesse qui représente la grande partie de la communauté, nous allons perdre tout le monde de Beni. Les jeunes s'approprient déjà la campagne et peu partout, même dans des écoles, là qui est encore court, la campagne continue. Nous avons commencé la campagne, c'était d'abord au niveau du quartier Yakobo et Mukulia, où nous avons sensibilisé nos pères jeunes de mettre des dispositifs là, peu partout, même dans leur ménage. Nous avons compris aussi une autre chose, que si la jeunesse ne s'approprie pas la campagne, ne s'approprie pas la riposte, risquerait de placer plutôt les contre-ripostes. Au lieu d'accompagner, ils vont créer la résistance et cela va nuire à la communauté et les équipes auront des difficultés. C'est comme ça que la jeunesse, non seulement le Parlement des jeunes, l'initiative vient du Parlement des jeunes, mais au moins un peu partout, il y a déjà des éléments de ce message et il y a déjà l'appropriation du message et les choses marchent déjà au niveau de la ville de Beni.
Quelles sont les stratégies mises en place pour la réussite de cette campagne?
Comme stratégie, nous en avons trois. Premièrement, nous sommes en train de mener la campagne dans différents réseaux sociaux où nous sensibilisons sur des plateformes comme Facebook, WhatsApp, sensibiliser nos pères jeunes qui sont actifs dans les réseaux sociaux. Nous faisons aussi des actions de surveillance à base communautaire où dans la communauté et puis partout dans nos 30 quartiers, nos jeunes veillent sur leurs pères dans la communauté. Troisièmement, il y a aussi maintenant des conférences que nous faisons, des actions que nous faisons. Récemment, nous avons réalisé, à part Moukoulia, nous avons réalisé d'autres actions un peu partout où nous continuons à sensibiliser. Cette semaine, nous avons prévu deux séances où nous allons rencontrer les leaders des jeunes, leur présenter les difficultés qui ont trait à la désinformation par rapport à la riposte. C'est surtout cet aspect que nous essayons de marteler. Nous, à notre niveau, nous avons compris que cette désinformation risquerait de détourner l'attention de la communauté. Au lieu de respecter les mesures barrières, ils pourront penser qu'ils sont en train de les respecter, pourtant ils sont en train de ne pas observer les mesures liées à Ebola pour avoir d'autres mesures qui ne sont même pas appropriées et on risque maintenant d'embrasser la maladie en disant que nous sommes en train de nous protéger.
Alors Samuel, sur le terrain, quel est votre degré de collaboration avec les autorités sanitaires et locales pour garantir l'efficacité de cette campagne?
Le degré de collaboration est vraiment parfait parce qu'au moins chaque jour, nous participons dans des rencontres au niveau du BCZ. Nous sommes avec l'équipe de la communication et de la coordination. Au niveau de la mairie, on collabore avec l'autorité urbaine. Au niveau de commune, nous sommes en collaboration avec les bourgmestres. Mais nous allons plus loin ces derniers temps. Nous sommes en train d'envisager aller vers le chef de quartier pour que nous puissions faire l'ancrage purement communautaire qui doit commencer de la base. En somme, nous pensons que ça peut plus relayer les messages.
Alors pour terminer, peut-être dernière question, qu'attendez-vous de la communauté à travers cette campagne?
Nous attendons la communauté, le respect juste des mesures barrières, relayer aussi. Si le père du ménage a compris le message, au niveau de son ménage, qu'il puisse relayer le message. Dans des églises, les pasteurs, les prêtres, les imams et peu partout, qu'ils puissent aussi relayer le message. Cette maladie est peut-être très compliquée parce que si on ne fait pas attention, si une personne ignore la maladie, elle peut facilement affecter toute la communauté. Donc que tout le monde puisse comprendre que cette maladie est grave et nous avons intérêt à créer une riposte farouche pour que nous puissions réellement bouter hors l'état de nuire cette maladie qui nous vient encore une fois. Après autant de jours que nous l'avons vaincue, nous devons encore vaincre cette maladie par une riposte farouche et que cela soit bouté hors la ville de Beni.
Samuel Sekanabo, merci.
À moi de vous remercier.
C'était donc notre invité Samuel Sekanabo, président du Parlement des jeunes de Beni, qui s'entretenait avec Marc Marofimbo. Voilà qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, coordonné par Élisée Chikota Chivoeta, supervisé par Alain Rongmouchige et mis en onde des mains de maître par André Mongou. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.